Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 6 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine. Et on parlera de musique. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Titre de ce dimanche 6 février, la politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Le Forum de l'Islam de France a tenu sa première séance plénière. Après Maurice, la Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. La politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Barnaby Joyce s'est excusé pour les commentaires formulés en mars de l'année dernière et a proposé de démissionner, ce que Scott Morrison n'a pas accepté. Le Premier ministre a déclaré que Barnaby Joyce et lui-même n'avaient pas eu de relations étroites dans le passé, mais qu'ils continueraient à travailler en étroite collaboration.
Politics is a brutal business. And anyone who pretends it's not, and anybody who pretends that from time to time people don't get angry or bitter or don't act like other human beings, then if you can't accept and understand each other's frailties and be forgiving in those circumstances, then frankly that says a lot more about you than it does about others.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 28 décès dus au coronavirus. L'État compte 7893 nouvelles infections depuis hier. Il y a 2320 personnes à l'hôpital, dont 147 en soins intensifs. Le Victoria a enregistré 6 décès et 7169 nouveaux cas. Il y a 652 personnes à l'hôpital, dont 73 en réanimation. Le Queensland a enregistré 9 décès, 5746 nouveaux cas et 727 personnes à l'hôpital. Le chef de la santé du Queensland, le docteur John Gerrard, affirme que les personnes âgées qui n'ont pas reçu leur dose de rappel sont les plus à risque de mourir, mais le nombre de personnes dans les hôpitaux publics a diminué.
The good news is in the hospitals we have had a substantial reduction, a further substantial reduction in the number of inpatients in public hospitals, down to 663 from 727 yesterday.
Un programme de migration au point mort et le manque d'initiatives gouvernementales ont entraîné une pénurie de travailleurs au service des communautés multiculturelles à travers l'Australie, dans le secteur des services aux personnes âgées. Avec une équipe de 140 bénévoles et 230 employés rémunérés, Australian Multicultural Community Services est au service des personnes âgées dans le Victoria depuis 39 ans. Mais la directrice Elizabeth Drost affirme que l'organisation s'appuie fortement sur les travailleurs migrants qui parlent plusieurs langues pour fournir un soutien adéquat à leurs clients. Elle déclare qu'avant la pandémie de COVID-19, l'Australie acceptait entre 80 000 et 200 000 migrants chaque année, ce qui est maintenant réduit à 40 000, ce qui a un impact sur les soins à domicile et les personnes âgées dans les communautés multiculturelles.
I've been working in multicultural community services for 30 years and I have never seen this type of workforce shortages. So we have seniors who are asking us to help them live at home and support them. And unfortunately, we are really struggling to recruit enough staff.
Le Japon est frappé par une sixième vague de coronavirus. Le nombre quotidien de contaminations ne cesse d'augmenter. Et depuis quelques jours, le Japon est confronté à une pénurie de tests PCR et de tests antigéniques. Reportage Bruno Duval pour RFI.
Ce pharmacien tokyoïte, comme bon nombre de ses collègues, est désormais en rupture de stock de tests antigéniques.
Ce matin, j'ai vendu les 10 derniers tests qu'il me restait et mon fournisseur est incapable de me dire quand il pourra me réapprovisionner.
Les tests PCR également sont devenus une denrée rare, en tout cas dans un délai de moins de 10 jours, ce que cette patiente apprécie peu.
Je n'ai pas encore reçu ma troisième dose de vaccin et voilà maintenant que par-dessus le marché, il n'est plus possible de se faire tester. Les bras m'en tombent.
Dans les hôpitaux aussi, les tests sont rationnés, comme en témoignent ces deux médecins.
Faute de tests, on essaie de débusquer ce fichu virus via un simple examen clinique. Mais ce n'est pas facile de différencier Omicron d'une grosse grippe hivernale. Et puis c'est risqué de procéder comme ça. Un Covid pas diagnostiqué, c'est l'assurance que la personne concernée va contaminer tout son entourage.
On en est réduit à dépister uniquement les patients les plus mal en point. Le problème, c'est que de plus en plus de malades qu'on n'a pas pu tester voient leur état rapidement se dégrader. Donc si cette pénurie de tests s'éternise et Omicron continue de se propager, on va tout droit à la catastrophe sanitaire.
Et les Japonais n'en ont pas encore fini avec Omicron. Les épidémiologistes n'entrevoient le pic de la sixième vague qu'à la fin du mois, ou plutôt. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Des milliers de personnes ont défilé dans la ville ukrainienne de Kharkiv hier, samedi, pour protester contre une éventuelle invasion russe. La ville n'est qu'à 40 km des dizaines de milliers de soldats russes massés à la frontière ukrainienne. La foule scandait « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire à la nation, mort aux ennemis ». Une partie du million d'habitants de Kharkiv se dit prête à mener une guerre de guérilla contre la Russie. La résidente Svetlana Galashkov déclare que de nombreux habitants veulent défendre l'Ukraine.
I was born in Kharkiv. I'm a volunteer, and because of the danger and probability of Russia attacking my city, I'm here today. And not only me, we want to show that there are people in Kharkiv who are ready to defend and fight back.
Є люди, які готові обороняти і дати відсіч.
Ryan, le jeune garçon, est mort dans le nord du Maroc après être tombé dans un puits de 32 mètres où il a été piégé pendant 5 jours. Les sauveteurs ont extrait le corps après une opération d'envergure impliquant des bulldozers pour enlever des rochers au milieu des craintes de glissement de terrain et atteindre le garçon par un tunnel d'accès. L'opération avait saisi la nation avec des foules se rassemblant sur le site. Le roi Mohamed VI du Maroc a exprimé ses condoléances aux parents du garçon. Reportage Pierre Firsion pour RFI.
Mais l'annonce a été faite par le cabinet royal dans un communiqué qui précise que le roi Mohamed VI a appelé les parents de l'enfant. Ce soir, tout le pays est plongé dans une infinie tristesse. La population était suspendue depuis 5 jours au sort de cet enfant de 5 ans. En guise de solidarité, des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur le site ces derniers jours. Le sort de Ryan avait également suscité une immense émotion sur les réseaux sociaux. Ce soir, des internautes du monde entier font part sur Twitter de leur tristesse et saluent la mémoire du jeune garçon. Ryan était tombé mardi dans un puits étroit de 32 mètres creusé à proximité de sa maison à Igrane dans la province de Chefchaouen. Le diamètre du puits étant trop petit pour descendre, les secours s'étaient résolus à creuser un trou en parallèle à l'aide de bulldozers. Ils avaient ensuite réalisé une brèche horizontale en direction du puits. Les sauveteurs étaient parvenus cet après-midi à pénétrer dans le tunnel menant à la poche où se trouvait l'enfant, mais ils sont finalement arrivés trop tard, eux qui tout au long de ces 5 jours ont été contraints d'avancer très prudemment pour éviter les éboulements.
Le Forum de l'Islam de France a été présenté hier par le ministère français de l'Intérieur. Il remplace le Conseil français du culte musulman, créé en 2003 par l'ancien président Nicolas Sarkozy, alors qu'il était ministre de l'Intérieur et servait d'intermédiaire entre le gouvernement et les chefs religieux. Les 5 millions de musulmans du pays sont quelque peu divisés sur le Forum. Reportage Simon Rosé, RFI.
Sur le papier, le FORIF, le Forum de l'Islam de France, va devoir prendre la place d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il doit remplacer le CFCM. Ce forum est une initiative du ministère de l'Intérieur qui en a choisi la centaine de membres. Et s'il répète à l'envi qu'il ne souhaite pas interférer dans les affaires de l'islam, le ministre Gérald Darmanin acte donc la fin d'un système mis en place il y a 20 ans.
Le CFCM ne remplit plus son rôle. Et donc on en a tiré une conclusion. Depuis un an, nous travaillons à cela. Et les mosquées indépendantes, qui représentent plus de 60% des mosquées qui ne sont pas affiliées à une fédération, je crois, sont heureux que nous ouvrons le champ des représentants d'aujourd'hui.
Il faut une représentation plus proche du terrain, moins parisienne. Le constat est partagé par Mohamed Moussaoui, le président pour quelques jours encore du CFCM. Il craint cependant que le FORIF ne puisse pas s'attaquer à tous les problèmes.
Une démarche participative qui s'appuie sur les acteurs locaux et non pas sur les fédérations. Ça, je pense, c'est le point central. Après, la question du financement n'a pas été évoquée et je pense qu'on, sans résoudre la question du financement, toutes les propositions ne pourront prospérer.
Le FORIF est en effet composé de 4 groupes de travail et cette question n'est pas abordée, mais il n'est pas exclu de l'y intégrer à l'avenir.
La présidentielle en France, et hier, il y avait ce duel à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour était dans le nord du pays. Reportage Pierre-Olivier, RFI.
Sur les terres défavorisées du nord de la France, la promesse d'Éric Zemmour était claire par les salaires et impositions.
Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont LE candidat du pouvoir d'achat. Oui, je les écoute depuis des semaines et en réalité, de la droite jusqu'à la gauche, ils disent tous la même chose. Ils ne disent rien.
Éric Zemmour déroule ses propositions, attaque Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat donc, mais rapidement, l'obsession migratoire d'Éric Zemmour revient au galop.
Savez-vous qu'en plus d'un hébergement gratuit, nous donnons à chaque demandeur d'asile pendant près d'un an une carte bancaire créditée de 430 € par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de vos impôts.
Galvanisé devant plus de 6000 personnes, Éric Zemmour flatte son auditoire sans jamais citer Marine Le Pen.
RSA, allocation familiale, aide au logement. Il n'est plus admissible que votre fiche de paye vienne financer l'assistanat des étrangers.
Mélanger pouvoir d'achat et immigration, un cocktail savamment dosé par Éric Zemmour pour tenter de séduire de nouveaux électeurs sur ces terres du Nord, d'habitude acquises à Marine Le Pen.
Et Marine Le Pen était à Reims. Reportage Julien Chavannes pour RFI.
Pas une seule fois, elle n'aura prononcé son nom. Marine Le Pen aura soigneusement évité de parler d'Éric Zemmour. Ses coups, elle les a presque réservés exclusivement à Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant.
Une cible, le président sortant, et des alliés politiques à travers l'Europe, de Matteo Salvini en Italie à Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Changement de ton, au bout d'une heure de discours, Marine Le Pen quitte son pupitre, s'avance vers la foule pour parler d'elle, de l'attentat contre son père quand elle avait 8 ans et de sa famille.
Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Et puis je suis devenue maman. Vite, d'une famille nombreuse, vite, 3 enfants en moins d'1 an. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman.
Marine Le Pen joue la carte personnelle comme jamais, tentative inédite pour distancer ses adversaires. Un dernier sondage donne à nouveau Marine Le Pen au coude à coude avec Éric Zemmour.
Après Maurice et La Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. Laetitia Bezin pour RFI est sur place à Antananarive.
De nombreuses cases détruites, des arbres tombés qui barrent la route et une ville inondée par la montée de la mer. Des vagues immenses qui retombent avec beaucoup de force, c'est ce que décrit le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Mananzar, commune d'entrée du cyclone. Les toits de plusieurs sites d'hébergement se sont envolés et les déplacés qui s'y trouvaient ont été transférés dans le collège de la ville, poursuit le capitaine Eninzu Ravaala, qui précise qu'il est pour l'heure impossible de sortir pour évaluer les dégâts à cause de la puissance du vent. À 100 km au nord de Nosy Va, Park. Plusieurs poteaux électriques sont tombés, décrit un membre des forces de l'ordre. Plus au sud, à Manakkar, les vents et les pluies sont aussi très intenses. Un peu plus de 6000 personnes ont été déplacées. 9 régions et 6 districts de la côte est et des Hautes-Terres sont en alerte rouge de danger imminent. Des centaines de foyers sont privés d'électricité. Celle-ci a été coupée par précaution à cause de la force des rafales de vent et des pluies, ont indiqué les autorités. Les dégâts sont encore difficiles à évaluer, explique le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Un peu plus de 40 000 habitants de toute l'île ont été évacués dans des écoles, des gymnases ou encore des églises avant l'arrivée du cyclone.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 32. Melbourne, 29. Hobart, 21. Canberra, 21. Sydney, 25. Brisbane, 28. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce 6 février. La politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Après Maurice et la Réunion, le cyclone Batsirai atteint la côte est de Madagascar. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord la CAN, le Cameroun qui a pris la 3e place en battant au tir au but le Burkina Faso après prolongation. Sylvie Berruet et Christophe Jousset pour RFI.
Menés 3-0 par le Burkina Faso, les Lions indomptables ont réalisé une remontada à 3 partout avant la victoire au tir au but.
Oui, les Lions indomptables qui dansent au pied des tribunes, qui font la fête avec leurs supporters, avec la médaille de bronze autour du cou. La scène était totalement inimaginable à 20 minutes de la fin du match. Face à une équipe remodelée à 80% et sans imagination, le Burkina Faso menait alors 3-0. Début de Steve Yago, d'André Onana contre son camp et de Djibril Ouattara. La soirée tourne à l'humiliation et on en est à rechercher la trace de la dernière défaite des Lions à domicile. C'est inutile car incroyable retournement de situation est sur le point d'arriver. Baouken réduit l'écart avant que Vincent Abou marque ses 7e et 8e buts dans le tournoi aux 85e et 87e minutes. Une faute professionnelle, dira Bertrand Traoré, le capitaine des étalons, aussi sonné les étalons que leur gardien Ouédraogo obligé de sortir sur blessure. Sawadogo, son remplaçant, ne pourra rien contre les 5 tirs au but transformés par les Camerounais. Alors que Nana détourne la tentative de Blati Touré, le Burkina a entrevu l'exploit et finalement raté sa sortie. Le Cameroun, lui, a pu célébrer la fin de sa CAN avec son public.
Et la grande finale de ce dimanche, c'est entre le Sénégal et l'Égypte. Sadio Mané et Mohamed Salah, deux coéquipiers en Angleterre qui jouent pour Liverpool, joueront l'un contre l'autre. Écoutez leur entraîneur, Jürgen Klopp.
C'est une grande réussite pour mes joueurs, pour Sadio Mané et Mohamed Salah d'être en finale de la CAN. Naby Keïta a également fait un tournoi exceptionnel. Il a malheureusement été suspendu lors d'un match décisif pour la Guinée. Mais je pense que sinon, le Sili National aurait eu de bonnes chances d'aller un peu plus loin s'il avait été là. Jusqu'à présent, la CAN a été très réussie pour nos joueurs et la finale sera passionnante. Ce n'est pas si facile car nous devons regarder le match et un de nos joueurs sera certainement très heureux après la rencontre et l'autre forcément beaucoup moins. Les deux ont une bonne chance de réaliser quelque chose de vraiment très important.
Analyse maintenant de ce duel de ces deux joueurs de Liverpool avec Antoine Grenier pour RFI.
Leur photo côte à côte prise au stade Amadou Ahidjo lors des quarts de finale était donc un prélude. Sadio Mané et Mohamed Salah seront face à face en finale de Cannes. Une anomalie pour les coéquipiers de Liverpool, plus habitués à affoler ensemble les défenses d'Angleterre et d'Europe. Associés depuis l'arrivée de Salah sur les bords de la Mersey en 2017, l'Égyptien et le Sénégalais ont conquis la Ligue des Champions, la Première Ligue et la Coupe du Monde des Clubs. Un duo si marquant que Liverpool a posté jeudi soir sur les réseaux sociaux une photo de ces deux attaquants avec pour légende « On est fiers de vous deux ». Se disputer la suprématie africaine, un cas de figure aux antipodes de leur relation. Pour les voir s'affronter, il faut remonter à 2014. Pas encore coéquipiers, Mané et Salah s'étaient croisés dans le groupe G des éliminatoires de la CAN. Résultat, deux victoires sénégalaises avec au passage un but de Mané. Huit ans plus tard, s'ils vivent la CAN chacun de leur côté, les deux attaquants n'en sont pas moins essentiels à leur sélection. Sadio Mané, trois buts et deux passes décisives portent l'attaque sénégalaise, quand Mo Salah porte l'Égypte à lui tout seul. Et quel que soit le vainqueur de la finale, une certitude, ces deux-là s'affronteront de nouveau en mars en barrage de la Coupe du Monde, le tirage au sort ayant placé l'Égypte sur le chemin du Sénégal.
Et maintenant, on revient sur l'échec du Cameroun en demi-finale vendredi avec Marie-Amélie Motte pour RFI.
Un rêve pour des millions de Camerounais, celui de voir les Lions Indomptables soulever le trophée de la CAN chez eux à la maison. Mais le rêve a donc tourné au cauchemar. 0-0 au bout du temps réglementaire hier au stade de l'Embé. Très bonne première mi-temps camerounaise, mais au fil du match, les Lions se sont fait endormir par les Pharaons. Les prolongations n'ont rien donné. Tout s'est joué au tir au but. Et après un tir validé de chaque côté, les Camerounais ont craqué. La fatigue, la tension, le manque d'expérience aussi peut-être. Harold Mukudji, James Léa Siliki et Clinton Jay ont tous les trois manqué leur tir au but. En revanche, sans faute côté égyptien. Et ce sont donc les Pharaons qui disputeront la finale dimanche contre le Sénégal. On écoute la réaction de l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi, fier malgré tout du parcours de son équipe.
Ouais, c'est dur. Après, comme je l'ai dit, c'est pas... on a eu un bon parcours, on a tout donné. On a vraiment essayé de représenter le pays. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Après, voilà, malheureusement, on sort en demi-finale. On n'est pas content, mais on est fiers quand même d'avoir tout donné parce que voilà, c'était pas un adversaire facile en face. Ils sont habitués à souffrir. Ils sont habitués à défendre ensemble, en bloc, ils lâchent rien. Physiquement, ils sont forts. Et voilà. Si on les voit souffrir, c'est parce qu'on a fait un bon match, je pense. Si on n'aurait pas fait un bon match, ils n'auraient pas souffert. Donc ils ont souffert parce qu'on a fait un bon match. Et c'est pour ça que je suis fier de mon équipe, de faire ce qu'on a fait et fier de notre parcours. Je suis ici parce que c'était jusque là, sans faute. Donc faut pas nous tirer dessus pour une défaite parce qu'on a vraiment tout donné. On voulait nous aussi aller en finale et on voulait nous aussi remporter cette coupe.
Et maintenant, ce focus sur les supporters du Sénégal, le Sénégal qui est en finale ce dimanche. Ces supporters qui composent les 7 lettres du pays et ils sont très remarqués en tribune lors des matchs, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte pour RFI.
Notamment les membres du 12e Gaïndé, une véritable institution. Le 12e Gaïndé qui ambiance les tribunes avec sa ferveur, ses chants, ses musiciens et ses drapeaux, mais également grâce à ses 7 lettres, 7 supporters qui se peignent les 7 lettres de leur pays sur le corps et qui font évidemment sensation. Hugo Moissonnier est allé à la rencontre de ces 7 samouraïs sénégalais.
Une heure de temps, c'est la première couche en blanche. La deuxième course, après on peut écrire les lettres avec le pinceau. Nous n'avons pas de l'argent ni de force, mais nous avons notre corps. Je m'appelle Abba Sénégal. Moi je suis N. S, c'est celui-là, Abdou Aziz. Le E, c'est Alif Sang. Autour de la table, c'est marqué Sénégal. Sur les 7 lettres, on est venu de régions différentes. C'est Sénégal en miniature. Allez, Sénégal. Allez, Sénégal. Tchaganam, Tchaganam, Sénégal. Ça veut dire Sénégal, allez de l'avant.
Léopold Zalais, membre fondateur du 12e Gaïndé. Mais les 7 lettres ont commencé en 2002 à la CAN du Mali. C'était la première fois que l'Afrique et le monde venaient de découvrir des supporters qui se font peindre le corps avec les 7 lettres qui composent le nom de notre pays, le Sénégal. 2018, ils étaient au Mondial. J'ai vu que tout le stade était ébahi. Nous sommes très contents parce que c'est notre marque déposée. Les 7 fantastiques.
On court derrière ce trophée-là, mais cette fois-ci,
Je pense que ça sera la bonne.
Est-ce que vous aurez envie de les enlever, vos peintures?
Si on remporte la coupe, personne ne va prendre bain. On va rentrer comme ça au Sénégal avec la peinture.
On passe au championnat en Europe avec, en France, la Ligue 1, avec la victoire de Monaco contre Lyon, 2-1, et Montpellier qui s'est incliné face à Saint-Étienne, 3-1. En Espagne, Séville, 2e, et Osasuna, 12e, ont fait match nul, 0-0. En Allemagne, le Bayern de Munich, premier au classement, a battu Leipzig 3-2. En Italie, l'Inter Milan, premier au classement, battu par l'AC Milan, deuxième au classement, 2-1. On passe à la finale de la Coupe FFA. C'est en Australie hier soir. C'était entre Melbourne Victory et les Central Coast Mariners au AAMI Park. Et c'était le dernier match disputé sous la Coupe FFA. Et cette coupe sera baptisée l'année prochaine et s'appellera la Coupe d'Australie. Melbourne Victory a donc gagné son premier trophée en battant les Central Coast Mariners 2-1. On écoute le milieu de terrain de Melbourne Victory, Chris Economidis, d'origine gréco-australienne, qui a marqué le deuxième but de son équipe.
Thank you. That was, we're so delighted with the win today. Every single player in our squad, all 31 who played throughout the FFA Cup, big credit to them and we can enjoy tonight. Our fans, like every week, week in, week out, they're superb. They're the 12th man and just listen to them now, they're still roaring. This one's for them and week in, week out, they come and support us and we're so happy we can give them some silverware this year.
On passe maintenant au rugby avec le tournoi des Six Nations, avec la victoire de l'Irlande contre le Pays de Galles, 29-7. L'Écosse s'est imposée contre l'Angleterre 20-17 et ce dimanche, la France jouera contre l'Italie. La légende de la NFL, on parle du foot américain, et c'est Tom Brady qui prend sa retraite à l'âge de 44 ans. Il est considéré comme le meilleur quarterback du foot américain, comme nous l'explique Guillaume Naudin pour RFI.
Avec 7 victoires au Super Bowl, la grande finale dont la prochaine édition se déroulera le 13 février prochain, Tom Brady a plus gagné à lui tout seul que les clubs les plus titrés qui en ont gagné au maximum 6. À la suite de l'élimination de son équipe de Tampa Bay par les futurs finalistes de Los Angeles il y a 10 jours, il avait annoncé qu'il allait réfléchir à son avenir, en discuter avec sa femme, le top modèle brésilien Gisele Bündchen, et avec ses enfants. Le week-end dernier, des sources habituellement bien informées avaient devancé son annonce. Ce mardi, le quarterback de 44 ans s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il remercie son équipe des Buccaneers en Floride, avec laquelle il a remporté son dernier titre en 2021, de même que ses entraîneurs, ses coéquipiers et les fans. En revanche, pas un mot pour l'équipe qu'il a lancée chez les professionnels et avec laquelle il a fait l'essentiel de sa carrière pendant 20 ans, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il l'avait laissé partir il y a 2 ans alors que ce bourreau de travail à l'hygiène de vie irréprochable avait manifestement encore quelques bonnes passes dans le bras droit. Ce compétiteur acharné était prêt à tout pour gagner, y compris parfois à jouer avec la règle. C'est ce qui en a fait, avec la lassitude née de l'accumulation de victoires, un joueur unanimement respecté, mais pas toujours aimé.
Un mot de tennis pour vous dire que la finale à Montpellier sera disputée entre Zverev, l'Allemand, et Bublik, le Kazakh. Et puis les JO d'hiver de 2022 qui se déroulent en Chine, à Pékin, jusqu'au 20 février prochain. Un mot sur la performance des Français hier avec Raphaël Rennes pour RFI.
L'équipe de France qui est entrée de plein pied dans la compétition en remportant sa première médaille, l'argent pour les biathlètes du relais mixte 4 fois 6 km. L'épreuve a été remportée par la Norvège grâce à Johannes Bø, vainqueur au sprint devant Quentin Fillon-Maillet, dernier relayeur d'une équipe lancée par Anaïs Chevalier-Boucher, puis Julia Simon et Émilien Jacquelin. Pas trop de réussite sur son tir debout, mais il ne boude pas son plaisir de remporter cette récompense importante pour lui.
Elle est géniale parce que personnellement c'est un objectif déjà de faire partie de ce relais, c'était une énorme fierté et j'avais envie de faire une belle course et on sait ce que ça représente pour l'ensemble de l'équipe. C'est super de faire cette médaille, les conditions étaient compliquées aujourd'hui avec des moments parfois un peu plus calmes, des moments plus compliqués et voilà, je suis très content de retrouver la forme sur les skis premièrement. J'avais beaucoup d'anxiété après quelques semaines plus compliquées et je vois que je retrouve la forme mentalement, moralement et physiquement, donc ça c'est chouette. très bon tir couché. Il y a un tir debout un peu plus compliqué où finalement les premières balles et Nicole, lorsqu'il y avait beaucoup de vent, je me suis bien accroché. Et finalement, quand le vent était moins fort, et ben c'est là où c'est devenu plus compliqué pour moi. Je pense que je tenais à peine trop la carabine, un peu trop de crispation. Mais voilà, ça a permis de rendre le relais quand même en deuxième position. Et après, Quentin a fait un super job, ça lance super bien la caserne.
Dans quelques heures aura lieu la première épreuve de ski alpin, la descente masculine dans laquelle est engagé Johan Claret, vétéran âgé de 41 ans, rendez-vous compte. Il avait terminé deuxième d'une descente en Autriche récemment. Un nouvel espoir de médaille peut-être.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Notre personnage de la semaine, en lien avec l'actualité, il s'appelle Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali depuis 2018. Il vient d'être expulsé du Mali par la junte militaire au pouvoir dans le pays. Un nouvel épisode des relations de plus en plus tendues entre Paris et Bamako. La France, rappelons-le, a plusieurs milliers d'hommes de déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane qui lutte contre le terrorisme. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, nous y revenons avec des extraits de TV5 Monde et France Télévisions.
C'est un événement rare entre deux États qui souligne la profondeur de la crise. Au journal télévisé de la mi-journée ce lundi, le gouvernement malien a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer.
L'ambassadeur de France expulsé du Mali, une mesure brutale et rarissime. La junte militaire au pouvoir accuse les Français de déclarations hostiles. Ce soir, le Quai d'Orsay prend note et rappelle sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Il a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.
C'est la junte qui est illégitime. Ce sont les colonels qui ont pris le pouvoir et qui ont fait un double coup d'État depuis août 2020 qui est illégitime et qui refuse le suffrage universel, qui refuse la vérification démocratique. Il y a une véritable fuite en avant de la part de la junte qui n'est pas acceptable.
Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a été virulent pendant le week-end, parlant à plusieurs reprises de junte irresponsable et d'une situation qui ne peut pas durer.
Dérive de la junte. C'est indigne parce que pour aller permettre au Mali de garder sa liberté, sa souveraineté, il y a eu des morts français pour la liberté du Mali. Se faire traiter comme cela par des responsables maliens est vraiment indigne.
La présence des troupes françaises au Mali se complique chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, la junte militaire au pouvoir a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France. Il doit quitter le Mali dans les 72 heures. On est monté d'un cran dans la tension entre les deux pays. Mais ce soir, Paris redit sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Les soldats français peuvent-ils rester au Mali? La question se pose ouvertement avec la décision des autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur de France. La junte militaire qui a pris le pouvoir en 2020 justifie cette décision inédite par les propos jugés hostiles tenus à son encontre par Jean-Yves Le Drian. Un pouvoir malien hostile, un sentiment anti-français qui se répand, les militaires engagés au Mali sont de moins en moins les bienvenus. L'opération Barkhane a déjà réduit la voilure. Il ne reste plus que deux bases au Mali, Menaka et surtout Gao. Moins de 5000 soldats y stationnent. Il ne devrait plus en rester que la moitié dans un an.
Les relations se sont tendues depuis août 2020 et les deux coups d'État militaires. Paris remet ouvertement en cause la légitimité du nouveau pouvoir au Mali. La France s'agace également de la montée en puissance de la force Wagner, faite de mercenaires russes.
Alors que la junte s'installe pour durer, la France s'inquiète de l'ouverture du pays aux militaires russes, voire à la milice Wagner qui lui est affiliée. Le Mali répond « souveraineté nationale ». Quand la France annonce une réduction de sa force Barkhane dans le pays, le Premier ministre malien s'indigne et devant l'ONU parle d'abandon.
La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires.
En réponse, Emmanuel Macron évoque les soldats français morts au Mali et parle de honte qui déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Depuis cet échange virulent, aucun rapprochement n'a été possible et la tension est montée d'un cran après les sanctions diplomatiques et économiques infligées par les pays voisins de la CEDEAO début janvier. Le gouvernement malien avait prévenu que son pays n'excluait rien dans ses relations avec la France. Avec ce nouveau degré franchi, se pose désormais la question du maintien des troupes françaises dans le pays.
On a le plaisir d'accueillir sur les ondes de SBS French Jean-François Ponthieu, qui est le directeur artistique de So Frenchy, So Chic. Bonjour et bienvenue, Jean-François.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on va parler des deux concerts que vous allez organiser. D'abord, à Melbourne, c'est en février prochain, c'est le 13, et à Sydney, le 19 février. Et un retour pour Melbourne au Werribee Mansion.
Après 2 ans d'absence, nous sommes très contents de revenir à Werribee parce que c'est un parc qui est magnifique. On a l'impression de se dépayser quelque part et de partir dans une petite oasis fleurie et verdoyante.
Parlez-nous du line-up des artistes que vous allez présenter sur scène.
Alors, cette année, c'est la 10e année que nous faisons le festival. Et je voulais célébrer la relation précieuse qu'il y a entre la France et l'Australie en faisant des collaborations. Fefe qui fait une collaboration avec Cooking on Three Burners, qui vont prendre ses chansons et les mettre live sur le festival. Cooking on Three Burners ont eu un single hit en 2017 qui s'appelle This Girl, qui était remixé par un DJ qui s'appelait Kuhn, qui était un hit worldwide. Et ils sont une des meilleures groupes de Melbourne dans la funk et la musique groove.
Et donc, vous avez aussi choisi des artistes qui viennent de Sydney.
Oui, c'est Lilia Alaska qui va ouvrir le festival. C'est une artiste qui débute. C'est son premier live show. Donc, ça va être exhilarant pour elle. Nous avons aussi un autre projet qui s'appelle Yeye 2.0, qui est une collaboration avec 14 chanteuses australiennes comme Tina Arena, Odette, Greta Ray, Ainsley Wills. C'est produit par une ARIA nominated producer qui s'appelle Alice Ivy. Et mixé par John Castle qui a mixé beaucoup de ARIA winners dans la musique. Nous avons enregistré 14 chansons. Il y en a 4 qui sont sorties, il y en aura 4 autres qui vont sortir ce mois-ci. Et nous sommes en rehearsal at the moment pour faire un live show avec un artiste qui s'appelle Ali Barter et Nadea et un groupe que nous avons formé pour le festival. Et les premiers concerts sera à Melbourne. Et ensuite, nous avons aussi 2 concerts réservés pour le WOMAD à Adelaide avec ce Yeye 2.0 projet.
Donc, vous faites un saut à Adelaide également.
Tout à fait. Et Yeye 2.0, c'est la reprise des chansons iconiques des années 60 du mouvement Yeye. Et je vous conseille d'écouter sur les streaming platforms, Spotify, Apple Music, etc. C'est Mick Harvey qui va reprendre les chansons de Serge Gainsbourg. Mick Harvey qui est le cofondeur et guitariste de Nick Cave and the Bad Seeds, le Birthday Party and the Boys Next Door. Il a été un producteur pendant longtemps d'artistes comme PJ Harvey. Il a fait des musiques de films, donc c'est un vétéran de la musique. Et il va reprendre, il a créé 4 albums sur Serge Gainsbourg qu'il va faire live à notre festival.
Et d'après ce que je comprends, vous serez aussi de la partie en tant que DJ, c'est ça?
Oui, oui. Je DJ très rarement, mais pour les special occasions, parfois je me lance.
C'est un aspect caché qu'on ne connaissait pas.
Ouais.
Il y a des mesures sanitaires qui seront de rigueur pour les concerts, Jean-François?
Nous avons effectué un concert l'année dernière à Ripponlé où on avait un COVID-safe event qui s'est très, très, très bien passé. Donc, on a des procédures en place pour s'assurer que les gens sont en bonne santé, en bonne sécurité.
Et qu'est-ce qu'on peut emmener ce jour-là à Melbourne et à Sydney? Est-ce qu'on peut, par exemple, emmener les gamins?
Oui, nous avons des activités pour les enfants. Vous pouvez voir sur le website sovereignsociétés.com des informations sur ce sujet. Nous avons fait des partenariats avec des restaurants comme le Bellevue Cottage à Sydney ou alors le Bistrot Gitan à Melbourne et Hôtel Gitan, c'est la famille Raymond, Myrte de Cas. Donc, on a vraiment une sélection de culinaire très éclectique et pour célébrer l'art de vivre à la française de façon moderne.
Un conseil, c'est que les gens puissent réserver leur pique-nique bien à l'avance pour ne pas être déçus le jour des concerts.
Oui, parce que nous faisons les pique-niques un peu en petite quantité et donc c'est mieux de réserver à l'avance. Il y aura aussi des food stalls sur le festival, des stands à huîtres, des lobster rolls, des pissaladières, des sandwichs, des croque-monsieur. Un menu assez exhaustif.
Et donc, les concerts commenceront, d'après ce que je comprends, comme les années précédentes, vers 11h du matin à Melbourne et à Sydney?
Alors, c'est 11h du matin à Melbourne et c'est 1h de l'après-midi à Sydney. Parce que le Sydney, c'est un samedi, donc on commence plus tard et on finit plus tard. Et à Melbourne, on commence à 11h, on finit à 8h30.
À Sydney, c'est au Bicentennial Park?
Près du port, au bord de l'eau. Donc, c'est un endroit qui est magique.
Et donc, un conseil, c'est peut-être de dire aux gens qui nous écoutent de réserver assez rapidement sur le site de Sofranchi So Chic.
Oui, sofranchisochic.com. Allez voir, vous avez toutes les informations. On a aussi une compétition où on donne 10 $500 vouchers pour les meilleurs restaurants français de Melbourne. Donc, vous pouvez entrer à la compétition pour vos chances de gagner.
Et Jean-François, autre message que vous aimeriez lancer en ce début d'année pour encourager les gens à sortir, à venir voir les artistes sur scène?
Je pense que c'est important de vivre sa vie parce que ça fait 2 ans qu'on est en lockdown et l'été, ça dure pas longtemps. Donc, il faut braver la peur du Covid et puis sortir en sécurité, mais vivre sa vie et profiter et supporter, aider l'art et la création artistique.
Jean-François, toujours un plaisir de vous avoir sur SBS French et à très bientôt.
Merci Jean-Noël, à bientôt. Merci, au revoir.
D'émission, un rappel des grands titres de ce 6 février. La politique est brutale, déclare le Premier ministre Scott Morrison dans le sillage de la publication d'un SMS du vice-premier ministre Barnaby Joyce qui dit, je cite, que le Premier ministre est un hypocrite et un menteur. Le Forum de l'Islam de France a tenu sa première séance plénière ce week-end. Après Maurice et La Réunion, le cyclone Batsirai a atteint la côte est de Madagascar. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous mardi à 13h sur les ondes de SBS French. On vous laisse en compagnie de Laurent Barden et Célia Wa qui nous interprètent Jouons-nous Rivet. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.